9h17, Fabrice de Pierrebourg qui rentre de mission au Mali, une mission qu'il a effectuée avec les casques bleus canadiens. Fabrice, bon retour.
Merci.
Il faut d'abord expliquer pourquoi les Canadiens, là on va mettre la table pour commencer, là, pourquoi les Canadiens ont délégué, le Canada a délégué des casques bleus au Mali.
C'était une demande qu'avait fait l'ONU depuis un bon moment. Il faut savoir que les Canadiens avaient quitté le terrain, on va dire, des missions de paix il y a environ 20 ans. Et ça faisait longtemps qu'il y avait des pressions au niveau de la communauté internationale, au niveau de l'ONU, pour que le Canada revienne finalement sur ce rôle qui a toujours été historiquement le sien. Et au cours de la campagne électorale fédérale, il y avait à un moment donné une rumeur comme quoi on enverrait près de 1000 casques bleus canadiens quelque part en Afrique. Et évidemment, c'était le Mali surtout qui retenait l'attention parce que c'est un pays qui est en proie au chaos depuis environ 2012-2013. Il y a déjà 12 ou 13 000 casques bleus du monde entier qui sont là-bas, de 50 pays, ce qui est énorme, même si on n'en parle pas. Et finalement, ça s'est fait très rapidement. Tout le monde m'a dit que ça s'est fait très rapidement. Au mois de mars-avril, le gouvernement Trudeau a dit « Ok, on envoie des casques bleus au Mali pour remplacer les Allemands dans une mission aéroportée. » Mais au lieu d'être 700 ou 900, finalement, ça a été réduit à 250 soldats qui ont une mission essentiellement aérienne. Donc, pas ce qu'on a vu, même si c'était pas casque bleu, en Afghanistan ou en Irak, où là, les soldats canadiens étaient beaucoup sur les routes avec tous les risques que ça comporte quoi pour leur sécurité. On sait qu'il y a eu beaucoup de décès en Afghanistan, pas en Irak. Mais ça pourrait être le cas au Mali où il y a déjà 170 morts dans la mission de l'ONU. C'est la plus meurtrière à ce jour. Et à ça, il faut rajouter une vingtaine de soldats français qui sont morts aussi parce qu'eux ont une mission parallèle de lutte au terrorisme. Eux, ils font pas du tout dans l'assistance, dans le largage de vivres, mais dans la neutralisation de terroristes.
Tu disais que c'était le chaos depuis 2012-2013. En quelques mots, comment le Mali se divise? Quelles sont les influences?
Bon, le Mali, c'est un territoire qui est très grand, à peu près grand comme France, Espagne, Portugal. Donc, on va avec deux parties vraiment sud-nord. La partie nord est plus sahélienne, donc avec mi-désertique, et l'extrême nord est très désertique puisqu'on est dans le Sahara puis qu'on touche à la frontière saharienne. La partie sud est de nouveau, je dirais, relativement calme, mais la partie nord, nord-est, elle, il faut savoir qu'il y a une demi-douzaine de groupes djihadistes qui sont très actifs là, qui sont tous liés à Al-Qaïda. Donc, on parle beaucoup de l'État islamique depuis des années, mais là, c'est vraiment le territoire d'Al-Qaïda puis de plusieurs groupe affilié. C'est eux, puis je l'avais dit la semaine dernière, qui sont entre autres responsables de la mort des 6 Québécois à Ouagadougou. Il y a le groupe de Mokhtar Belmokhtar. Et puis, il y a l'État islamique qui, évidemment, commence à s'implanter là, l'État islamique au Grand Sahara. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font la déstabilisation, du harcèlement. Quand ils ont pris contrôle de la moitié de ce territoire en 2013, ils ont pris des villes comme Gao, Tombouctou, etc. Il y a eu un film, d'ailleurs, qui a été à Cannes devant le Tombouctou, qui était en compétition devant le film de Xavier Dolan, qui raconte très bien ça. Les Français les ont chassés et les casques bleus sont arrivés là. Mais l'armée malienne est partie c'était la déroute totale. Un peu comme l'armée irakienne devant le groupe armé État islamique, ou l'armée afghane devant les talibans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le poids, finalement, devant une insurrection djihadistes. C'est des soldats, il faut dire, qui sont mal payés, peu équipés. Ils n'avaient pas envie de se faire trancher la gorge ou exécuter en plein désert. Donc, ils sont partis. Et depuis, ils ont beaucoup de mal à reprendre le contrôle du territoire. Si l'ONU et si les Français d'abord partent, qui sont une mission armée, puis qu'ensuite l'ONU part, le Mali, le gouvernement malien, qui vient d'avoir des élections quand même présidentielles, donc ça fonctionne un peu, la démocratie dans certains coins, est incapable de reprendre le contrôle de son territoire.
Et qu'est-ce que les Canadiens font exactement?
Alors, eux, ils ont une mission qui est quand même importante, même si leur nombre est réduit. À la première mission qu'ils ont, c'est un peu le 9-1 volant, c'est-à-dire qu'ils sont les seuls à assurer le secours héliporté des troupes de l'ONU, quelles qu'elles soient, dans un rayon d'environ 150 à 200 kilomètres. Ça a l'air de rien, mais il faut savoir que d'aller chercher quelqu'un qui est grièvement blessé en plein désert, probablement entouré d'insurgés, ça se fait pas comme ça. Donc, on peut pas le faire par la route. On y va par hélicoptère. Donc, ils ont une équipe de 3 hélicoptères, parce que ça, pour un hélicoptère médicalisé, un gros Chinook dans lequel j'ai embarqué. Ça en prend 2 en parallèle qui sont puissamment armés, des Griffons. Donc, il faut aller chercher ça. Ils sont de garde et de permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils vont chercher ce blessé. Ils sont capables de commencer à l'opérer dans l'hélicoptère et de le ramener après à Gao dans un hôpital militaire. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est très important. Le Canada n'a jamais fait ça. Et ce qu'il me disait, l'officier responsable de cette unité, c'est que pour eux, en plus, c'est bénéfique pour le Canada, parce qu'à chaque fois qu'on est en mission à l'étranger, nous-mêmes, on dépend des autres. En Afghanistan, c'était les Américains, essentiellement, qui faisaient les évacuations médicales, donc avec tous les délais que ça peut accorder. Là, on pourrait être maître de nos évacuations médicales, et ça pourrait servir aussi en cas de catastrophe naturelle. On serait capable de déployer une équipe qui fait de l'intervention par hélicoptère. L'autre chose, c'est plus conventionnel. Ils vont apporter des vivres dans les bases très éloignées, inatteignables par la route, comme par exemple on est allé à Kidal, qui est près de l'Algérie. Kidal, il y a beaucoup de djihadistes autour. Ça, c'est une piste qui est souvent mal entretenues ou inexistantes. Puis il y a des risques de tomber dans des embuscades. Donc là, ce sont les Canadiens qui amènent des choses. On a amené de l'eau, puis on a ramené des vivres. Et puis ils vont chercher ou parachuter, déposer des soldats d'autres nations dans des zones très éloignées.
Et comment les soldats sont installés? C'est quel genre de base?
Alors ça s'appelle, on n'a pas le droit de rire, mais c'est pas eux qui l'ont choisi, le camp Castor.
Le camp Castor?
Oui, c'est vrai. Mais c'est les Allemands qui l'avaient appelé comme ça. Donc ça pourrait s'appeler le camp feuille d'érable ou sirop d'érable, mais non. Le camp Castor, c'est le long de la piste aérienne. Il y a une piste à Gao qui a été construite par l'ONU. Donc le camp Castor, c'est 600 mètres par 600 mètres. Et la blague, c'est comme ils sont là-bas 6 mois, ils disent 600 mètres par 600 mètres pour 6 mois. Et à côté, il y a la super base de l'ONU. Et puis à l'écart, il y a l'énorme base des Français avec leurs hélicoptères de combat, de transport, etc. Donc c'est une base comme on la connaît partout. S'il y a rien à faire là-dedans, c'est un peu. Il y a des gens qui sortiront pas de là pendant 6 à 9 mois. Il y a des hangars pour les hélicoptères. On couche dans des containers qui sont blindés. Avant, les soldats couchaient dans des tentes. Donc, ils empilent des containers maritimes et qui sont transformés en chambres, puis ils sont bunkerisés. Il y a des bureaux. Il y a une cantine où vous mangez beaucoup de gras, beaucoup de patates. Mais c'est pas mauvais. Il y a un gym. Il y a un bar sans alcool, qui est le bar Castor, évidemment. Tout est Castor là-bas. Donc, ils vivent là et c'est quand même une micro-société. Ils sortent peu, ils sortent quasiment pas, sauf ceux qui font les missions aériennes, quoi.
Et ce sont des soldats qui viennent de quelle province?
Un peu partout, mais il y en a beaucoup d'Ontario, d'Alberta, et il y a beaucoup de Québécois. Il y a des Québécois, mais aussi une unité québécoise. Il y a le 22e régiment qui est là-bas, et eux, ils sont une vingtaine, ils sont chargés de la protection. Donc c'est eux qui embarquent, qui font la protection sur la base, et à chaque fois que l'hélicoptère part, ce sont des gars de Valcartier qui embarquent pour faire la protection armée de ces convois-là. Mais en gros, c'est ça. C'est, sur 250, je dirais, il y a 20 de Valcartier, mais il y a beaucoup de Québécois. J'entendais beaucoup parler Québécois sur la base, quoi.
Bon. On sait qu'une mission comme celle-là, et qui s'étire dans le temps, là, tu le disais depuis 2012, oui. D'abord la présence française et par la suite les Nations Unies. Les Canadiens sont perçus comment par les Maliens?
Bien, ils sortent peu, mais les Maliens, je pense, d'une façon générale, les armées étrangères qui sont là, de l'ONU, sont bien perçues par les Maliens. Les Maliens, en revanche, ont une méfiance ou une peur terrible de l'armée malienne. Pourquoi? Parce que sous couvert de lutte au terrorisme, il y a eu beaucoup de cas d'exactions. Il y a des enquêtes en ce moment de la Division des droits de l'homme de l'ONU sur des fosses communes qu'on a trouvées. Puis on pointe du doigt l'armée malienne qui rentre souvent dans les villages. Puis on dit qu'il y a un terroriste ici. Puis on peut imaginer ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est des règlements de compte loin des objectifs des caméras et des journalistes. Donc les Maliens en ont une peur terrible. Puis moi j'ai patrouillé une matinée avec les Allemands qui faisaient une patrouille blindée dans les villages. Et tout le monde me le disait. Vous allez voir, c'est la première fois qu'ils patrouillaient avec des Maliens puisqu'ils essayer de les intégrer à eux pour leur montrer un peu comment faire. Et il y avait une réticence, les enfants, etc., les gens osaient moins approcher. Et ça, tout le monde me l'a dit. Mais les Canadiens, globalement, ont une bonne réputation. J'ai rencontré un des responsables de la mission des Nations Unies, donc au Mali, la MINUSMA, qui est responsable, lui, des droits de l'homme, Guillaume Geffin. Et lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il aurait aimé que le Canada s'implique beaucoup plus dans cette mission. Mais oui, on est là le Canada est là d'un point de vue militaire, mais il dit, vous avez une très bonne réputation au niveau de tout ce qui est respect des droits humains, enquête, etc. Puis il dit, le Canada n'a aucun intérêt au Mali. Donc vous seriez bien, parce que justement quand on voit toutes ces exactions, toutes ces dérives, si le Canada pouvait intervenir là-dessus, envoyer des policiers, puis il dit, moi j'ai travaillé avec des policiers canadiens sous couvert de l'ONU en Côte d'Ivoire, puis il y avait eu aussi là-bas des exactions, il y avait eu beaucoup de dérapages. C'est lui qui avait fait l'enquête, il m'a dit, leur professionnalisme est incroyable, ils ont des techniques d'enquête que nous on n'avait pas, et surtout il y a quand même une bonne réputation du Canada en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a des pays comme la France, etc., et tout, qui ont un passé colonial là-bas, donc qui ont des intérêts aussi économiques. Donc il dit le Canada, lui, se qualifierait pour ça. Et on a regretté au niveau de l'ONU, puis moi j'ai regretté que ce soit pas un Canadien qui ait pris le commandement de la force de l'ONU au Mali, comme c'était prévu à un moment donné. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, mais ça devait être normalement un haut gradé Canadien qui aurait dû gérer cette opération des casques bleus au Mali, quoi.
Mais est-ce qu'il y a un risque d'enlisement on est là depuis peu, finalement.
Oui.
Là. Est-ce que c'est une mission qui risque de s'étirer, que les Nations Unies vont demander au Canada d'être présent plus longtemps?
Les militaires, à la blague, quand on leur dit, il paraît que vous êtes là pour un an, ils rigolent toujours, parce qu'ils disent quand les politiciens nous envoient, c'est toujours pour un an, mais après ça tarde. Moi, tous les officiers là-bas m'ont dit, non, tous les journalistes nous posent la question, en juillet 2019, on sera de retour. Mais on peut jouer sur les mots aussi, peut-être c'est la mission aérienne héliportée de secours qui sera de retour, on aura peut-être une autre mission, parce que il y a un avantage aussi des Canadiens, puis entre autres, on parlait de Valcartier tout à l'heure, c'est que pourquoi on aurait aimé qu'il la communauté internationale aurait aimé qu'il y ait plus de Canadiens à cause de la langue française. C'est des francophones, les Maliens. Et quand les Allemands patrouillent, ben, c'est tout bête, là, mais il faut emmener un ou deux interprètes. Puis il n'y a pas le contact direct avec la population. Et ça, première chose. Deuxièmement, les groupes terroristes sont peut-être en train de s'installer vraiment à long terme au Sahel. Puis ce que me disait le représentant de l'ONU, c'est que sa grande peur, c'est qu'on voit arriver les combattants étrangers qui, n'ayant plus leur place en Syrie ou en Irak, se cherchent un autre terrain de djihad, sont déjà là, mais arrivent avec beaucoup plus d'ampleur, avec leur technique d'insurrection, et que le pays, finalement, continue de basculer dans le chaos, parce qu'à un moment donné, les Français ont eu les questions qui s'en aillent. Donc, tous ces pays du Sahel, déjà, sont sous la coupe des groupes djihadistes. Puis là, on est quand même proche de l'Europe. On est sacrément proche de l'Occident. Quand on est rendu au Mali, au Niger, un peu en bordure de Mauritanie, Algérie, on n'est pas loin de l'Europe.
Mais est-ce que pour prendre une image d'aéroport, là, est-ce que ça pourrait devenir une espèce de hub du mouvement terroriste?
Oui. Ben, c'est extrêmement facile, au nord du Mali, bien sûr. Puis il n'y a aucune frontière là-bas. Parce qu'encore maintenant, on voit Syrie et Turquie. La Turquie a bâti un mur en béton de 5 mètres de haut. On arrive quand même dans ces pays-là, malgré la guerre, à contrôler les mouvements. Mais en Afrique, c'est comme un vide. Toute la bande sahélienne, d'ailleurs, toutes les armées des 5 pays du Sahel, on essaye de faire une force antiterroriste qui s'appelle le G5 Sahel. Mais les distances sont immenses. Puis Paul, nous, quand j'étais en hélicoptère, ça sautait aux yeux, cette immensité, avec très peu de relief. D'ailleurs, on se demande comment ils arrivent à se cacher là-dedans. Mais le terrain est à eux, finalement. On se souviendra qu'en 2012, le fameux Mokhtar Belmokhtar avait pris près de 700 personnes en otage sur un site pétro-gazier dans le sud de l'Algérie. D'ailleurs, c'est là où on a découvert la première fois des combattants canadiens, des djihadistes. Il y avait deux jeunes étudiants ontariens qui faisaient partie de ce commando. Ils sont tous morts là-bas. Donc, pour eux, c'est un terrain de jeu extraordinaire en raison souvent de la faillite des États sur place. L'armée malienne est incapable de contrôler son territoire. Ils ont des vieux pick-up, ils ont pas très peu d'hélicoptères, ils ont rien, ils ont vraiment rien. Il compte sur la communauté internationale, quoi.
Est-ce que tu as un souvenir, on va se laisser là-dessus, là, une image, une carte postale que tu pourrais décrire aux auditeurs, que ce soit lors d'une visite avec les Allemands ou encore une rencontre sur la base?
Ah oui, à Kidal. On est allé à Kidal, au nord du Mali, puis là, on a amené de l'eau, mais ça a l'air de rien, mais il y avait l'hélicoptère chez nous qui était rempli de bouteilles d'eau. Et quand on est arrivé, là, moi, j'ai cette image du Père Noël qui arrive devant des enfants le 24 décembre. Et d'habitude, sur les bases, il ne faut jamais de photos, hein. Les Allemands, pas de photos, les Hollandais, pas de photos, à cause des visages, tout le monde a peur. Là, on est arrivé là-bas, il y avait des Ghanéens, c'était pour eux, l'eau, entre autres. Et des gens du Bangladesh sont tous arrivés avec leur iPhone et ils se sont mis à prendre en photo l'hélicoptère, les bouteilles d'eau, et il fallait qu'on fasse tous des selfies avec eux. Même moi, je vais me retrouver au Ghana, peut-être sur une des pages Facebook au Ghana. Je dis, mais moi, je suis un touriste ici, je suis pour rien. Pas moi qui amène l'eau. Ils ont passé 30 minutes à photographier l'hélicoptère. Ils voulaient rentrer dans l'hélicoptère. Puis là, les Canadiens disaient, non, personne rentre dans l'hélicoptère. Mais c'était génial pour eux. Là, c'était déjà comme une animation, un hélicoptère canadien qui se pose dans le nord du Mali. On leur amène de l'eau. Puis il y avait un côté très naïf et très candide, mais très sympathique, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice.
Merci, Paul.
Et d'ailleurs, sur ma page Facebook, il y a des photos de Fabrice, sur sa page Facebook également.
Sur mon compte Twitter, partout. Même jusqu'au Ghana.
C'est ce que j'allais dire, jusqu'au Ghana. 9h30, on fait une pause, on revient après, puis je vous présente notre sujet de tribune téléphonique. Ça va tourner autour de la campagne électorale. Tout de suite après ceci.